les ateliers d'Eva Luna, l'émission qui écrit à vos oreilles.
Écrit libre.
Écrit libre.
Écrit libre.
Écrit libre.
Écrit libre. Écrit libre.
Le mois de mars est le mois des semaines d'éducation contre les discriminations. Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Comment se concoctent les discriminations ?
Dis, c'est quoi la discrimination ?
C'est normal.
Vous êtes normal et vigilant. Le monde est un livre d'images avec ses monstres et ses princesses, ses vilains et ses gentils. Vous êtes normal et sentencieux, toujours prêt à crier au loup.
C'est un ogre. Un ogre pour de vrai. Absolument énorme en hauteur, en largeur, en épaisseur, barbu ou pas rasé. Et peut-être irasable. Poils trop noirs, poils trop drus, 10 000 piquants de fer plantés sur la figure. Les cheveux en bataille, les sourcils épais comme des haliers, jamais il ne sourit, l'ogre. Il coupe son beefsteak en morceaux gigantesques, attrape ses frites par poignées de 12 avec ses doigts d'ogre pour les jeter dans sa bouche grande ouverte. On peut voir la bouillie que ça fait, encore plus rouge, avec les verres de vin qu'il vide d'un trait cul sec. Deux grandes carafes sont posées de chaque côté de son assiette. Il crache des mots. Bon, ce ne sont pas des mots, ce sont... des sons, des onomatopées. Blarch, 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 etc., etc. Un cri bref toutes les 5 secondes, à peu près. On ne comprend pas. On ne peut pas comprendre. L'ogre est assis à la cafétéria du supermarché un samedi à midi. Vraiment, il ne sourit jamais. Personne, peut-être, ne lui a jamais appris. Il n'est pas seul. Sa femme boit de l'eau, seulement de l'eau à petite gorgée. Elle a la tête triste rentrée dans les épaules, les yeux qui regardent sous la table. Il n'y a rien à voir que des pieds sous la table. Elle ne regarde rien. Ne dit rien. Leur petite fille est assise sur une chaise haute. Elle a 2 ans, pas plus. Des cheveux normaux, ni bruns, ni blonds, ni roux. Elle fait de grands sourires. Qui a pu lui apprendre ? À elle. Elle fait des gestes aussi, avec ses mains, avec ses pieds. Père ogre répond. Pour chaque geste, il lance un de ses mots dans sa langue de colère. On peut essayer de traduire. Non, sale gosse, arrête, c'est mal, touche pas. Et défendu, vilaine, pas ça, petite peste, recommence pas, tais-toi, etc., etc. Mais la fille de l'ogre ne se tait pas, elle babille et sourit toujours. Elle se lève malgré les cris, elle descend. Elle court vite autour de la table. Elle frôle les mains de son père, des mains comme des raquettes. Elle joue à passer entre les coups. Elle sait très bien y faire, elle s'amuse beaucoup. Hein, peut-être n'est-il pas méchant, l'ogre. On ne peut pas dire quand on ne connaît pas.
T'épaisse pousse un engucor.
La discrimination.
C'est normal.
Vous êtes normal et pointilleux. Le monde est un grand registre parfaitement ordonné. Ajouter une colonne ou une ligne romprait l'harmonie ordinaire.
Comment t'es sur le tatami quand t'es pas caché, quand t'as pas d'amis.
Une femme, réfugiée politique, et un employé de l'office d'immigration. Bonjour messieurs, je suis réfugiée politique et...
Asseyez-vous.
Merci, vous êtes gentil.
Ne prenez pas la peine de vous montrer sympathique avec moi. Cela ne marche pas. Votre pays d'origine.
Le Kalimantan.
Kalimantan. Je vérifie. Partie indonésienne de Bornéo. Vous ne ressemblez pas à une Indonésienne.
Ah non, je ressemble à ma maman d'origine slave. Maman était ethnologue, elle a rencontré papa pendant une expédition à Bornéo. Ils ont découvert l'amour et me voici.
Cela ne va pas. La définition de race indonésienne est cheveux crépus, nez écrasé, lèvres charnues. Je ne peux pas me permettre de vous croire sur parole. Il y a des milliers de fraudeurs qui aimeraient entrer dans notre pays en se faisant passer pour des réfugiés politiques. Parmi tous ces intrus, je dois débusquer la perle rare qui ne ment pas. Je ne tolère pas le mensonge. Je vous aide et il faut me faire confiance.
La couleur de mes cheveux vous inquiète? Je les ai colorés, regardez. Les racines sont très foncées et mon nez n'a pas l'air comme ça, mais il est écrasé. Elle s'ébouriffe les cheveux, s'aplatit les nez. Et ma bouche, elle est bien charnue. Elle fait ressortir ses lèvres. Vous pouvez cocher, je vous l'assure.
On enquêtera. Votre nom de famille suivi de vos prénoms.
Ah, mon prénom, ça me gêne un peu, vous savez. Je m'appelle Mata Hari.
Mata Hari, c'est une blague. Mes minutes sont comptées. Il nous reste 110 cases à remplir et 3 minutes pour clore votre dossier. Vos papiers d'identité.
Bien sûr, mais je suis ici afin que votre honorable main signe un petit bout de papier qui me permettra d'avoir des papiers. Avec toute ma reconnaissance, merci d'avance.
On offre des papiers seulement aux réfugiés qui peuvent prouver qu'ils sont encore vivants, alors qu'ils devraient être morts.
Vous ne délivrez des papiers qu'à des morts vivants?
En quelque sorte.
Dans mon pays, j'ai failli mourir pour défendre la liberté.
Mademoiselle Matari, je m'en moque de votre baratin. J'ai des cases à remplir, moi. Il me faut des preuves, des faits. N'avez-vous pas, par exemple, des cicatrices récentes, des plaies qui se feintent encore, des blessures bien visibles, bien reconnaissables?
Si vous avez vraiment besoin de voir ce qu'ils m'ont fait endurer là-bas, je peux me mettre en pause.
Oui, prenez la pause. Et je vous fais une belle photo.
Elle prend une pose tragique. Dépêchez-vous.
Pas mal. Le genou plié encore un peu. Le cou légèrement plus tordu. Oui, comme ça. Excellent. Ne bougez plus. Souriez. Parfait. Ensuite, activité.
Je suis une artiste. Je sais chanter, danser, jouer la comédie.
Artiste n'est pas un métier. C'est marqué. Dossier en attente si activité artistique.
Oh, je suis une artiste dans les balayages de bureaux, dans les repassages, dans les travaux domestiques en général.
Boniche à tout faire?
Boniche, bien sûr, cocher la case. Au moins, j'aurai la vie sauve, un bel avenir et de nombreux clients.
Vous pouvez le dire. Il y a une terrible pénurie de boniches malgré le fort taux de chômage. À ce propos, vous n'aurez pas un créneau pour faire un peu de ménage chez moi ?
Vous m'épatez, monsieur. Je croyais que vous vouliez m'humilier avec toutes vos questions.
Mais non, je fais mon métier, c'est tout.
Je croyais que vous vouliez me refuser les papiers.
Allons, ne pleurez pas.
Et vous me proposez un travail. Mieux vos boniches à règles qu'à pistes frites.
Nous ne nous sommes pas bien compris. Vous n'avez pas le droit de travailler. Je vous offre gentiment un emploi, mais puisque vous ne pouvez pas présenter des papiers en bonne et due forme, je vais vous employer en tant que bénévole. Je vous paierai généreusement, et je souligne généreusement, vos frais de déplacement. Et en échange, je vous promets que votre dossier ne moisira pas au fond d'un tiroir pendant de longues années, mais seulement pendant quelques petites années. Vous avez le choix.
C'est normal.
Vous êtes normal et clair. Le monde est un alignement, un rang, un défilé. Vous n'aimez pas les silhouettes sombres qui traversent la nuit en marchant de guingois.
Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie. Une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne.
Ce soir-là, Bagor se fait arrêter pour vol. Ce n'est pas un flagrant délit, non. Seulement un soir où sa marche incompréhensible, un peu fauve, son air tantôt maussade, tantôt rigolard en dedans, et sa tournure débraillée lui donne une allure maraude. Ce soir, les gens se rencognotent dans leurs manteaux. Bagor s'irrite de ces visages calfeutrés, des êtres collés à leurs bagages, pas une main offerte. La ville est fade et compacte comme un bol de riz gluant. Bagor, superflu, arpente des rues hostiles. Tandis que la méfiance s'épaissit autour de lui, il avance, seul. La nuit va bientôt tomber. Cette nuit-là ne coule pas dans un flot égal du temps. C'est une nuit incommode et surprenante, un tunnel cafard. Bagor jette un regard soucieux au ciel. Un ciel faucheton, sans compassion. Il faut néanmoins marcher. Dans son être vide de tout ce qui autrefois remplissait sa vie, le ras-le-bol profite et prolifère, un bouillonnement du cœur et du ventre. Monté sur ses grands chevaux, Bagor accélère. Il n'y a pas de place. Cette phrase lui revient à l'esprit. Une phrase lisse et terne dont il n'avait pas saisi à temps le caractère prémonitoire. Alors que son esprit galope vers un passé incorrigible, Bagor est soudain saisi par deux hommes et immobilisé entre eux au fond d'une voiture, le tout sans sa lamanèque. Stupéfait, il se tient à quoi, tandis que son esprit continue à battre la campagne. De temps à autre, il pense tout haut dans un dialecte surgi de sa mémoire. Les hommes échangent quelques impressions. Près du chauffeur, un chien loup se tient sage, oreille dressée. La voiture conduit Bagor au poste. Interrogé sur ses actes,
Il se montre incapable de tirer des choses au clair et surtout inapte à répondre à des questions simples, commençant par « Où ?»« Quand ?»« Pourquoi ?»« Comment ?» Cloué à son siège, il reste sans voix lorsqu'on lui demande de décliner son identité, sa formation, sa profession. Alors, il s'égare dans un curriculum exubérant dans lequel il apparaît avoir pêché, éventré et séché le poisson, conduit des pirogues, tiré les pirogues sur le sable, taillé au coupe-coupe le rivière phosphorescent, piloté des véhicules défoncés, réparé des voitures et des camions, chargé la canne à sucre, sans compter un peu de commerce, statues d'ébène, sandales, bijoux, et puis un peu de médecine. Couper le cordon des bébés, et parfois ça leur faisait un nombril en pain de sucre. On n'avait pas toujours les outils qu'il fallait. Peintre de demi-façade. Et bien sûr, il avait travaillé dans les trains. Une occupation légale, régulière, rétribuée. Ce curriculum tombe à plat. Une main flasque sur des cœurs de pierre. « De toute façon, tu n'as pas de papier, » lui dit-on. Les interrogatoires se succèdent. Bagor repart dans des discours où les serpents voisinent avec les esprits, les avions avec le « il n'y a pas de place ». Il parle de froid, de pluie, de mauvais sort et de la sécheresse là-bas. Plus il tente de se repérer dans le labyrinthe de sa vie, plus ses interlocuteurs en uniforme sont enclins à l'accuser de noyer le poisson.
Vous êtes normal et prudent. Chacun sa place. Le monde est un jeu de construction premier âge. On ne peut faire entrer n'importe qui, n'importe où. Un dimanche d'automne, probablement. Elle est assise à la table de la salle à manger chez ses parents. Elle porte le même tailleur gris, à la coupe stricte, mais avec un polo rouge. Le cliché n'est pas très bon. Elle a un regard fixe. Près d'elle, un jeune homme en costume croisé marron, cravate et chemise blanche, l'air sérieux. Il a le teint mat, les cheveux noirs et très épais. Ils se tiennent les mains sur la toile cirée, derrière une corbeille en plastique tressé, remplie de fruits artificiels qui font semblant d'être vrais. Tout comme le rideau en plastique, à rayures jaunes et blanches, froncé sur une tringle qui sépare la pièce. Il est algérien. Il s'appelle Abderrahman. Il est mécanicien dans un garage. Ils se sont rencontrés cet été. Ils sortent ensemble et ils s'aiment. Mouloudji, le pont de la rivière Kouaï, Quo Vadis. À Saint-Nazaire, dans ces années-là, Abderrahman, Ali, Belkacem et les autres ne sourient pas beaucoup. La ville est grise, le ciel est gris, la mer est grise. Ils sont presque tous originaires de Taher, de Djidjeli, de Constantine. La plupart sont parqués auprès de la gare, entassés dans des baraquements vétustes devant lesquels on évite de passer. Du linge sèche sur des cordes, des marmites fument, des transistors diffusent une musique lancinante, une musique de barbare. Abderrahman, lui, préfère louer une chambre meublée à Pinouette, rue des Chantiers. Il refuse cette promiscuité, ce ghetto. On ne dit pas Abderrahman, Ali, Belkacem. On les appelle Bougnoul, Biko, Bourico, Brel, Krouille et au mieux Mohamed. C'est passe-partout Mohamed, il y en a toujours un parmi eux. À cause de leur prophète, vous voyez ce que je veux dire. On dit « Tiens, voilà un Mohamed. Ou attention, il y a un Mohamed. Ou encore, tu viens Mohamed. Tutoiement de rigueur, moquerie. On les dit illettrés. On ajoute qu'ils sont violeurs et voleurs. En croise-t-on un dans la rue, sur le trottoir, dans les transports en commun et les lieux publics, on se détourne de lui, on presse le pas. On dit aussi qu'ils alimentent tous les trafics, dont celui de la drogue. On chuchote qu'ils couchent avec les filles, les engrossent, mais ne les épousent pas. Si jamais ils le font, c'est, bien sûr, pour rester chez nous, s'infiltrer, s'installer en France. On les dit encore porteurs de couteaux ou de grenades. Ils sont surtout suspects, car sous l'apparence du maçon, de l'épicier, du terrassier, de l'éboueur ou du mécanicien, se dissimule forcément un terroriste. Les contrôles d'identité se multiplient, à Saint-Nazaire et ailleurs. Comment Abderrahman, Ali, Belkacem et les autres peuvent-ils sourire ? J'abandonne le peu d'insouciance qui me reste. Je deviens, pour longtemps, la Fatma, la Mouker, la fille à Bougnoul. À Saint-Nazaire, cette année-là, je prends conscience des mots « injustice », « combat », « racisme », « colère », « révolte ».
C'est quoi la discrimination?
C'est normal. Tu comprends?
Vous êtes normal et soudé à vos racines. Le monde est un drapeau dont vous aimeriez, pour éloigner les importuns, pouvoir faire un épouvantail, peut-être une arme.
Demain, je dois défendre un Africain accusé d'avoir tué sa femme. Et je baigne dans une ambiance terrible. Ils ont de ces mœurs incroyables. Quant à lui, il a une tête de singe. Il bafoue trois mots de français. Il baratine tout le temps. Atroce.
Mais il est coupable ou innocent?
Ah, ça, je ne sais pas. Mais s'il n'a pas fait ça, il a sûrement fait autre chose.
Je croyais que tu assurais sa défense.
J'en suis bien obligé. C'est prévu par la loi. Bien. Je vais me doucher. Ah, au secours!
Noir.
Je suis resté longtemps, sans connaissance?
Oh non, mon chéri. Ce jeune homme est arrivé tout de suite. Il habite juste à côté.
À côté, il n'y a qu'un terrain vague.
Moi, j'habite sur ce terrain.
Mais le notaire nous a assuré qu'il n'était pas constructible.
Moi, j'habite dans une caravane.
Vous avez le droit d'occuper ce terrain?
Oui, j'ai les papiers. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'appeler. Je m'appelle Gino.
Gloria Zucchirondino.
Vous avez un petit accent étranger.
Je suis italienne.
Ah, l'Italia. Ma seconde patrie. Mes grands-parents étaient italiens. Allora, arrivederci.
Dis donc, Gloria, je suis en train de penser que le commissaire recherche un type dans son genre. Ah, ça serait bien quand même. On le fout en prison, on me remercie et j'en suis débarrassé. Ces gens-là préfèrent séjourner dans nos prisons plutôt que dans leur pays. Bien au chaud, bien à l'aise, la nourriture payée par les contribuables. Je me demande...
Mais si tu n'es pas en train de devenir fasciste.
Il n'y a pas besoin d'être fasciste pour comprendre ce qui se passe dans ce pays à cause des étrangers. Si encore ils voulaient s'imprégner de notre culture, toi, par exemple, tu as bien renoncé à ingurgiter des tonnes de pâtes pour apprendre à apprécier la bonne cuisine française. Nous subissons une invasion ethnique, et si on ne se défend pas, bientôt nous aurons droit au couscous à la place des pommes de terre et à du chien laqué à tous les repas.
Pourtant, le juge Shapiro nous expliquait qu'il est impossible de classer l'humanité selon des différences biologiques tout à fait inexistantes. C'est les racistes qui créent la race, et non l'inverse.
Il a dit ça pour te faire plaisir, vu la réputation des Italiens dans les affaires criminelles.
Grazie.
Et puis, avec un nom comme celui-là, Shapiro, il est juif. Il défend ses petits intérêts personnels.
Te voilà xénophobe et antisémite maintenant.
Mais non, si moi je le suis, les autres alors, c'est quoi? Ton juge Shapiro, par exemple. Chaque fois qu'il juge un arabe, il lui donne le maximum de la peine. Mais il ne le fait pas sans raison, non, il veut donner un exemple, les rappeler à l'ordre. C'est pareil pour l'Africain que je dois défendre demain. On n'a pas des preuves accablantes, mais on ne peut pas laisser répandre le sentiment que la France laisse un criminel en liberté. Toute communauté a besoin d'un bouc émissaire. Gloria, je suis très fatigué et il faut que tu me fasses des reproches avant d'aller au lit.
Bonne note et paix à ta conscience.
Ah ça, pas de problème.
Pendant que Philippe dort, surgit les fantômes des Gino.
Monsieur Philippe Rondino, votre conscience est tellement tranquille qu'elle vient perturber votre sommeil déguisé en Gino le gitan. Un gitan voleur, frimeur, malaisé, capable de tuer. Un gitan vulgaire qui boit et qui bouffe comme un porc. Votre conscience vous déclare coupable. Coupable de répandre l'idéologie de l'intolérance et de la violence. Coupable de préparer la guerre. Qui a été le premier à envahir l'autre? Qui nous prouve qu'il vaut mieux se nourrir avec des patates plutôt qu'avec des pâtes? Ou bien croire à un dieu plutôt qu'à un autre? Tu as peur, c'est ça, la peur ancestrale de l'inconnu, de l'imprévisible. Tu as peur qu'on vous vole vos femmes et vos biens. Pourtant, tu as bien marié une femme étrangère, et pour toi, c'est pas pareil. Nous avons besoin des autres. La France a eu recours à des sous-développés, à des morts de faim, à tous ces sauvages qui peuplent le monde. L'écriture vient de Mésopotamie, la roue des Sumériens, le kayak est esquimau, et le foot est anglais. À la France revient le champagne, la guillotine et le code de la nationalité. Bravo! Il n'est pas coupable, ton Africain, mais qu'importe, du moment qu'il sert à exorciser ton angoisse face aux intrus, aux envahisseurs, du moment qu'il sert à affirmer ta supériorité, à légitimer tes privilèges. Tu te sens coupable, et pour faire taire tes remords, tu as choisi un être faible et vaincu, un adversaire inférieur, que tu peux facilement dominer. Il compte sur toi pour s'en sortir, le pauvre. Il est entre tes mains, et il ne veut pas être jugé pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Tu n'es qu'un bourreau, Philippe, tu n'es qu'un bourreau.
Vous venez d'écouter les ateliers d'Eva Luna, l'émission qui écrit à vos oreilles.
Écrit.
Vous avez entendu Un ogre pour de vrai. Conte de Bernard Bretonnière, dit par Jean Tauvet. Un extrait de Droit d'entrée, pièce de Dania Vivarelli, dite par Jean-Luc Alliot et Diana. Un extrait du roman de Sylvie Bauget, La Norme, dit par Jean Tauvet. Un extrait du recueil de nouvelles L'Estuaire, de Thérèse André Abdelaziz, dit par Marie-Jeanne. Un extrait de la pièce de Diana Vivarelli, Bouc émissaire, dit par Diana, Jean-Luc Alliot et Didier Moïse. Un texte de Muriel Becquet, dit C'est quoi la discrimination? L'émission a été réalisée par Sylvie Bauget. La réalisation technique, Luc Richard. Et la voix, Marie-Jeanne.